et je voudrais vous proposer une réflexion en trois temps. Déjà nous arrêter sur qui est Jean-Baptiste. Ensuite voir comment cette vocation de Jean-Baptiste nous parle de la vocation du prêtre. Et finalement comment cette vocation de Jean-Baptiste éclaire finalement la vocation de tout baptisé. Quatre points dans la vocation de Jean-Baptiste. Sa vocation, ce n'est pas quelque chose qui lui est tombé dessus comme ça, un jour pendant sa vie, où il s'est décidé un jour, tiens, j'ai envie d'être prophète. Non. Il a été choisi dès le sein de sa mère. Ce n'était pas quelqu'un comme ça. Il a été choisi par Dieu. Il a été voulu par Dieu. Il a été aimé de Dieu. Et parce que Dieu l'a aimé, parce que Dieu l'a voulu, Dieu avait un projet pour lui. Un projet particulier. Celui d'être celui qui révélerait le Christ, qui manifesterait l'agneau de Dieu qui vient nous sauver. C'est la première caractéristique de Jean le Baptiste. Il a été choisi et voulu par Dieu dès le premier instant de sa vie. Un deuxième élément extrêmement important de Jean-Baptiste, il a été rempli de l'Esprit-Saint. Alors, nous ne l'avons pas entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais rappelez-vous la visitation, quand Marie, juste après l'Annonciation, se rend en hâte chez sa cousine Élisabeth, qui est enceinte dans son sixième mois, et au moment où Marie salue Élisabeth, l'enfant dans le sein d'Élisabeth, Jean-Baptiste, tressaille de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Il vit à ce moment-là une effusion de l'Esprit-Saint. Il est rempli de l'Esprit-Saint. Et ce don de l'Esprit-Saint qu'il reçoit à ce moment-là ne le quittera jamais. Parce qu'il était appelé par Dieu, choisi par Dieu, pour vivre avec Dieu. Et voilà ce don de l'Esprit. Troisième caractéristique de la vie de Jean-Baptiste, il est prophète. Il annonce ce qui va se passer. Tellement prophète que, au moment où il tressaille de joie dans le sein de sa mère, Élisabeth se met à dire « Béni soit celui qui vient, celle qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Élisabeth comprend la joie de son fils. Et par cette joie, elle accueille la prophétie, reconnaît le sens de cette prophétie. Et tout au long de sa vie, ensuite, Jean annoncera la venue du Christ. Il annoncera la réalisation des promesses de Dieu, ces promesses faites depuis des millénaires par les différents prophètes de l'Ancien Testament. Et ensuite, sa mission ultime sera de manifester, de révéler le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que cet enfant de 6 mois dans le ventre de sa mère est déjà capable de reconnaître la présence du Christ et de le manifester. Et il reconnaît tellement cette présence et la manifeste tellement que pour Élisabeth, il n'y a pas de doute. Comment se fait-il que la mère de Dieu vienne à moi? Élisabeth a bien compris le message de son fils. Et plus tard, quand il baptisera dans le Jourdain, rappelez-vous ce passage où Jésus arrive et où Jean, qui ne l'a jamais vu finalement, le reconnaît tout d'un coup. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Celui qui vous baptisera dans l'eau et le feu, dans l'esprit et le feu. Voilà l'agneau de Dieu. Quatre éléments donc dans la vie de Jean le Baptiste. Il a été choisi dès le sein de sa mère. Il a été rempli de l'Esprit-Saint. Il était prophète pour annoncer l'actualisation, la réalisation des promesses de Dieu, et il a manifesté, il a révélé le Christ au monde. Alors, pour le prêtre, je partir un peu de mon expérience personnelle, mais je crois que c'est vrai pour tout prêtre. Chacun d'entre nous, nous avons été aussi choisis par Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'un jour nous sommes devenus prêtres. Ce n'est pas par hasard qu'un jour on a eu envie d'être prêtre. Non, dès le premier instant de notre vie, nous avons été voulus comme Jean le Baptiste, voulu et choisi par Dieu pour devenir un jour prêtre. Même si il nous a fallu un jour aussi nous dire « mais je le veux aussi, j'adhère à cette volonté de Dieu, je la trouve bonne pour moi, je l'accepte, je la choisis. Ça, c'est tout l'aspect du discernement. Mais ce qui a précédé notre discernement de prêtre, c'est l'appel de Dieu. Et un appel qui arrive très tôt. On en prend parfois conscience tôt dans l'enfance, parfois un peu plus tard, mais cet appel de Dieu, il est inscrit en nous dès le point de départ de notre vie. Et en même temps, ce qui va nous permettre de reconnaître cet appel, c'est que nous sommes aussi remplis de l'Esprit-Saint. Il nous est donné l'Esprit-Saint pour justement reconnaître cet appel de Dieu en nous et pouvoir vivre notre mission. Et je crois que ce qui fait de nous des prêtres, c'est d'abord ce don de l'Esprit-Saint. Don de l'Esprit-Saint reçu au baptême et à la confirmation, bien sûr, mais surtout, don de l'Esprit-Saint reçu lors du sacrement de l'ordre, lors de notre ordination. Nous avons reçu vraiment l'Esprit-Saint d'une façon nouvelle. Et si je voulais faire une comparaison, je comparais cela à l'Eucharistie que nous allons célébrer dans quelques instants. Quand tout à l'heure, nous avons prié le Père pour qu'il envoie son Esprit sur le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, l'Esprit-Saint va vraiment descendre sur le pain et le vin, qui tout en gardant l'aspect du pain et du vin, vont vraiment devenir le corps et le sang du Christ. Eh bien, le jour de notre ordination, il se passe exactement la même chose en nous. On reste les mêmes, avec le même caractère, les mêmes défauts. Et pourtant, parce qu'en nous, sur nous, est descendu l'Esprit-Saint, nous sommes devenus un être nouveau. Nous sommes devenus présence du Christ, actualisant par les sacrements et par notre vie le mystère du salut dans le monde d'aujourd'hui. Il y a vraiment une action extraordinaire de l'Esprit-Saint qui transforme nos vies. Et ce que humainement nous sommes incapables de vivre ou de réaliser, eh bien cela devient possible par la grâce de l'Esprit-Saint descendu sur nous, qui nous conforme, qui nous configure au Christ. Troisième dimension du prêtre, comme Jean le Baptiste, il est prophète. Il annonce pas simplement, comme Jean-Baptiste annonçait la venue du Christ, nous annonçons, j'ai envie de dire, deux choses. D'une part, l'actualisation de ce salut. Chacun d'entre nous peut accueillir aujourd'hui dans sa vie ce salut, par l'Eucharistie, par la confession. Oui, le salut est à l'œuvre encore dans notre monde aujourd'hui et il peut transformer des vies. Et c'est notre mission de prêtre, de prophète, d'annoncer, oui, tu peux être sauvé, oui, ta vie peut être renouvelée, parce que le Christ est toujours à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde. Et puis, il y a une deuxième annonce prophétique que nous avons à faire, la vie éternelle. Croire en cette vie éternelle, pas simplement y croire un jour, mais annoncer qu'elle vient, qu'elle n'a jamais été aussi proche de nous qu'aujourd'hui. Oui, un jour nous serons heureux au ciel dans cette joie de la vie éternelle, dans cette joie de la résurrection, où avec tous les saints du ciel, nous serons là à célébrer Dieu, à célébrer le Christ, à célébrer l'agneau de Dieu. Et ça, je crois que c'est une des missions que nous avons, nous prêtres, à annoncer cette vie éternelle. Ce projet, cette promesse de la vie éternelle, elle est déjà en cours de réalisation. Et nous l'avons déjà accueilli dans notre vie et nous l'accueillons d'une façon nouvelle à chaque fois que nous vivons un sacrement. Mais le prêtre a aussi, comme Jean le Baptiste, cette mission de révéler le Christ présent. Et je voudrais prendre ou rappeler les trois modes de présence du Christ. La première, c'est quand le prêtre proclame la parole. Il vous dit: acclamons la parole de Dieu, et il l'embrasse ensuite. Parce que c'est vraiment la présence du Christ. Le Verbe de Dieu est bien là. C'est lui que nous accueillons, que nous écoutons. C'est à lui que nous voulons obéir. C'est le premier mode de la présence du Christ parmi nous. Un deuxième, eh bien, ça va être les sacrements, ça va être l'Eucharistie dans quelques instants. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. C'est un deuxième mode de présence du Christ. Et puis, il y a un troisième mode de présence du Christ que nous ne pouvons pas oublier, que nous n'avons pas le droit d'oublier, sous peine d'oublier le Christ. C'est les pauvres, les petits, les malades, les abandonnés, les rejetés, les immigrés, Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le Christ n'est pas moins présent dans les pauvres, les malades, les immigrés que dans le Saint-Sacrement. Ce sont des modalités différentes de présence du Christ, mais c'est la même présence, c'est le même Christ qui est bien là. Et nous ne pouvons négliger aucune de ces trois présences du Christ, la parole, les sacrements, les pauvres, les petits. Ce sont les trois piliers de la vie chrétienne, les trois modes de présence du Christ dans notre monde aujourd'hui. Et c'est une des missions du prêtre de le rappeler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, être baptisé à la lumière de Jean le Baptiste? Eh bien, ça veut dire, comme pour Jean-Baptiste, que vous aussi, dès le premier instant de votre vie, vous avez été voulu par Dieu, vous avez été choisi par Dieu, chacun d'entre vous, pour avoir votre place dans l'Église, pour avoir votre place dans le monde, pour avoir une vraie place dans le projet de Dieu. Oui, vous avez chacun été voulu par Dieu, choisi par Dieu, vous avez été chacun aimé de Dieu et vous l'êtes toujours. Quelles qu'aient pu être les difficultés ou les épreuves que vous avez pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui, sachez que vous êtes choisi de Dieu, aimé de Dieu, pour porter du fruit. Et vous aussi, comme Jean le Baptiste, mais peut-être que cela s'est fait d'une façon moins spectaculaire, moins visible, mais croyez que vous êtes vous aussi rempli de l'Esprit Saint, que vous êtes devenu, comme dirait Paul, le temple de l'Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu est bien présent en vous par cette présence de l'Esprit Saint. Il est là, il est en vous. Écoutez-le, reconnaissez sa présence, même si elle est parfois très discrète. Demandez peut-être être guéri de ces aveuglements qui nous empêchent de temps en temps de percevoir cette présence de Dieu en nous et de la percevoir parfois aussi dans les autres. Mais vous êtes bien rempli de l'Esprit Saint. Et ensuite, eh bien, comme Jean-Baptiste, vous avez à être des prophètes. Être prophète d'abord en étant témoin. Témoin de ce que le Christ a déjà fait pour vous. Comme peut l'être Marie, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Alors quelles sont les merveilles que le Seigneur a déjà fait pour vous? La preuve que le Christ est vivant, ressuscité, c'est votre témoignage, le témoignage que vous pouvez porter du Christ vivant, ressuscité. Si le Christ est vivant, ressuscité, il a nécessairement fait des merveilles pour vous dans vos vies. Osons, frères et sœurs, nous réjouir en apprenant à reconnaître ces merveilles du Seigneur dans nos vies. Et surtout, n'hésitons pas à en témoigner, à partager. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà ce que le Seigneur vivant, ressuscité, continue de faire dans notre monde aujourd'hui. Et puis pour terminer, vous avez aussi à manifester, à révéler le Christ. À le révéler, à l'accueillir, à le reconnaître par votre écoute de la parole de Dieu. On ne peut pas être chrétien, et le pape François insiste souvent là-dessus, sans lire et méditer chaque jour l'Évangile. Si je laisse l'Évangile en dehors de ma vie, une journée, j'ai laissé Dieu dehors. Je ne peux pas me dire croyant, me dire chrétien, si je ne prends pas le temps chaque jour d'écouter, d'accueillir et d'obéir à cette parole que le Seigneur m'adresse. Ce mot d'amour qu'il a à me dire chaque jour. Car si Dieu nous aime, il veut parler chaque jour au cœur de chacun d'entre nous. Il n'oublie personne. Mais c'est nous, parfois, qui laissons notre cœur trop fermé. Deuxième présence du Christ, les sacrements. Est-ce que je vis régulièrement de l'Eucharistie? Est-ce que je prends le temps régulièrement d'adorer le Christ, de le reconnaître, d'entrer dans un cœur à cœur avec lui par l'adoration eucharistique? Prendre le temps de laisser Dieu poser son regard sur moi. Et puis, troisième présence, celle des pauvres. Est-ce que je prends le temps régulièrement de reconnaître cette présence du Christ dans les pauvres, les petits, les malades, les immigrés? Et d'aller servir le Christ. Saint Camille de Lélis, quand il entrait dans la chambre de certains grands malades, ce grand saint du XVIe siècle, n'hésitez pas à faire une génuflexion devant les malades. Je peux vous témoigner que je connais deux médecins qui travaillent en hôpital et qui font la même chose. Quand ils rentrent dans la chambre d'un malade souffrant beaucoup, ils font cette génuflexion pour adorer le Christ présent. Et ils sont heureux de servir le Christ. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile en acte, aujourd'hui. C'est ce que Jean-Baptiste nous rappelle. Alors, soyons heureux d'avoir été toutes et tous choisis par Dieu pour vivre de l'Esprit-Saint et manifester le Christ, la miséricorde de Dieu au monde et de le révéler à tous nos frères. Amen.